vous connaissez tous. Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain?
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
On va essayer avec cette voix aussi.
Vous avez décidé de l'imiter tous les soirs.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous. Le magazine en deux temps et à deux vitesses. Actualité, musique live en première partie et les grandes archives extraordinaires, il n'y a jamais assez d'adjectifs, de France Inter en deuxième heure. L'actu, c'est Marlon Brando dans la rentrée littéraire. Personnage obèse du roman Les derniers jours de Marlon Brando de Samuel Blumenfeld, le plus brillant des critiques cinéma du monde. Du Monde, le journal. L'actu, c'est aussi les 40 ans d'Apocalypse Now avec une nouvelle version sortie en salle. Et puis Tarantino qui se refait le Hollywood des années 70 dans Once Upon a Time in Hollywood, alors que le Festival du cinéma américain de Deauville ouvre ses salles vendredi prochain. On peut dire qu'on est complètement raccord. On en parle ce soir avec Samuel Blumenfeld, notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à ses côtés, Benoît Lagane.
Oui, mais aussi surtout deux autres invités.
Voilà, quand même.
Arthur Serre, journaliste Cinéma Society à SoFilm et qui avait signé il y a une petite année, Marlon Brando, les stars durent 10 ans chez Capricci. Et puis Guillemette Audicino, journaliste, critique cinéma à Télérama, qui aime se faire des films aussi sur France Inter et co-autrice, avec Ariane Toscan-Duplantier de Toscan, Papa et moi aux éditions La Martinière.
Oh, c'est gentil ça de citer ça.
L'actualité, les chaque jour musical aussi avec Marion Guilbeault qui dégaine sa programmation magique.
Et pour rimer avec Brando, j'ai fait piano Laurent ce soir avec une valeur sûre du piano français, c'est David Cadouche qui fait sa révolution. Ça va se passer sur le piano du studio 621 dans quelques minutes.
Et puis dans le Énervé la suite, autre parole, autre temps, troisième rendez-vous en cette semaine de rentrée scolaire avec Françoise Dolto. La psychanalyste qui intervenait chaque jour dans l'émission Le Temps de Vivre de Jacques Pradel met à son programme Complexe d'Oedipe, masturbation, timidité et genre, déjà au centre des questions parentales. On était entre 1976 et 1978. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Les derniers jours de Marlon Brando, vous en êtes le témoin, Samuel Blumenfeld, ou presque, puisque c'est un roman qui vous met en scène avec Marlon Brando. Vous êtes journaliste.
Oui.
Dans le roman aussi, donc tout est parfait. Une fiction qui raconte des rencontres avec la star chez lui à Los Angeles, dans sa maison bunker, en octobre 2000, et puis 4 années plus tard, il avait 80 ans. Dans la vraie vie, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec Brando?
Oui, absolument. Il y en a eu deux. Je dirais une dizaine comme ça, 10-15, enfin 10-15 sur toute la carrière de Brando, donc ça fait pas beaucoup.
C'est quand même pas mal.
La plupart étaient consacrés à la politique, bien souvent, mais on va dire qu'il y en a fondamentalement, Brando n'a donné qu'une seule interview sur sa vie, sur sa carrière. C'était dans les années 60, à Truman Capote.
À Truman Capote, c'est le début du livre. Ouais.
Absolument, Truman Capote qui savait faire parler à les gens, qui savait également très bien en parler, et Capote était parvenu, parce qu'il était quand même très très madré, très rusé, très roublard, c'était sur le plateau de Sayonara au Japon, il était parvenu à s'insérer dans la
chambre
de Brando,
ouais, avec une bouteille.
Avec une bouteille de whisky, donc tout ce petit monde a bu gaiement, et Brando a parlé. Il a parlé comme jamais il a parlé, dans un article qui sera publié plus tard dans New Yorker, Le Duc en son domaine, un portrait formidable, et surtout Brando a d'autant plus facilement parlé qu'il pensait que ses propos n'étaient pas enregistrés. D'ailleurs, il ne l'était pas.
D'ailleurs, il ne l'était pas parce que Truman Capote n'enregistrait absolument jamais rien.
Mais en revanche, il était hyper amnésique.
Exactement. Ouais. Et vous-même, est-ce que vous l'avez rencontré dans votre carrière de journaliste au Monde?
Non, jamais. C'était impossible. Enfin, c'était impossible, ou plutôt c'était, on va dire, c'était la baleine blanche. C'était la baleine blanche de Moby Dick pour un journaliste. C'était un acteur qui vous faisait
rêver.
C'est
un commentaire corporel aussi.
J'irai pas jusque-là. Mais il vous est rêvé parce que vous saviez que c'était le plus gros coup que l'on puisse décrocher dans sa carrière. Plus beau parce qu'en fait, tout simplement impossible. En revanche, je l'ai rencontré en fait finalement, mais dans un monde parallèle.
C'est-à-dire au cinéma.
Celui du roman.
Qui est celui du roman et au cinéma. Alors au début du roman, vous écrivez que dans votre histoire personnelle, dans celle de votre personnage en tout cas, Brando a une place compliquée, que vous n'avez rien appris de lui, jamais cherché non plus un quelconque enseignement, sans doute parce que votre personnage, et peut-être vous-même, n'aviez pas vu les bons films. Qu'est-ce que vous aviez vu de lui, ou qu'est-ce que votre personnage aurait vu de lui pour avoir une mauvaise idée de Brando, acteur?
Alors on est toujours lié, vous savez, à son vécu, à son itinéraire. Et donc, au film, film dont on a été contemporain. Or, moi, je n'ai pas été... moi, j'ai grandi dans les années 70, comme Tarantino, comme beaucoup d'autres personnes, mais je n'ai pas été le contemporain du Brando, du grand Brando, de Sur les quais, de oui, Viva mais... Zapata, d'un tramway de mes désirs...
Oui, mais vous avez été le Brando du retour, du grand retour, ensuite.
Bah, écoutez...
Du parrain, alors, Apocalypse
si,
Now.
Alors, si vous voulez, oui, mais si vous voulez, quand on arrive à Apocalypse Now, ce n'est plus l'enfance chez moi, c'est l'adolescence. Le voisinage avec un acteur, enfin, selon moi, il se fait à l'enfance. C'est là que les liens se nouent et que vous choisissez si cet acteur fera ou non partie de votre famille. Or, dans l'enfance, le Brando que j'ai rencontré, c'était le Brando qui traversait le trou noir de sa carrière. Donc, si vous voulez, je pense à un film comme Candy, Christian Marquant.
Qui est
un film absolument honteux.
On se dit,
mais comment est-ce que cet acteur a pu descendre aussi bas et pourtant, bon, malheureusement,
en l'évitant, voilà. Parce qu'il l'évite, non, dans le film, à un moment où.
Il a une coupe de cheveux absolument aberrante.
Alors, vous avez vraiment un problème avec la coupe de cheveux. Il y a des pages consacrées donc aux problèmes capillaires de Marlon Brando, mais quelques pages plus loin aux problèmes capillaires de Sean Penn. C'est-à-dire que vous faites une fixation, en tout cas votre personnage de journaliste, fait une fixation sur les délires capillaires des acteurs hollywoodiens.
Et il n'y a pas Nicolas Cage?
Trop tôt. C'est trop tôt.
Mais, Donald Trump
mais maintenant que vous me le dites, il y a désormais une piste. Même si dans le cas de Nicolas Cage, c'est des implants capillaires, quoi. C'est presque un autre chapitre.
Qu'est-ce que c'est que cette fixation, justement, sur les dérives capillaires des acteurs hollywoodiens?
C'est toujours quelque chose qui m'a tapé dans la tête et que je n'arrive pas à m'extraire du cerveau. Je pense qu'au-delà de ça, vous savez, une coupe de cheveux, l'état de votre coupe de cheveux, ça je pense pour une série de cinéma, ça renseigne beaucoup sur l'état de votre carrière. Et je pense que dans le creux, le trou noir de la carrière de Brando à la fin des années 60, ces coupes de cheveux, c'est absolument n'importe quoi et c'est pas quoi en faire. C'est solidaire. Enfin, je veux dire, la coupe de cheveux est artistiquement solidaire.
Arthur,
il y a d'ailleurs Truman Capote dans son portrait, quand il retrouve Brando, c'est l'une des premières choses qu'il commande. C'est la première fois qu'il l'avait vu, c'était pendant une répétition d'un tramway nommé Désir. Et il le retrouve 10 ans plus tard, un peu changé physiquement. Il y a 10 ans qui sont passés et il note tout d'abord que le front a un petit peu pris sur les cheveux, qu'il a le cheveu beaucoup plus fin qu'avant.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est la part de vérité, c'est-à-dire vous revenez sur les masterclass « Lying for Living »,« Mentir pour vivre », dans lesquelles Marlon Brando se mettait en scène, déguisé quelquefois en femme. D'ailleurs, il adorait ça, même à la fin de sa vie, dans les dernières... C'était vraiment, oui...
C'était son grand truc,
c'était son grand-mère.
En grand-mère. Du rouge à lèvres.
Oui. Et puis, les ongles faits. Il se retrouve donc déguisé en femme, en masterclass, face quand même à Sean Penn, DiCaprio, Nick Nolte, Whoopi Goldberg. Qu'est-ce que révèlent ces masterclass? Moi, j'ai même pensé à un moment donné que c'était des fictions. On a été obligé de vérifier sur Internet pour voir qu'elles existaient.
Ouais. Ah, et comment elles ont existé? Ce que vous oubliez, vous citez les stars qui assistaient à ces masterclass. On peut rajouter DiCaprio.
Complètement, d'ailleurs, sadisé.
Complètement sadisé, comme souvent. Et on ne peut surtout pas oublier l'autre partie du public, qui était composée en partie de clochards qui avaient été pris dans la rue sur Sunset Boulevard.
Et qu'il faisait d'ailleurs intervenir lors de ces masterclass.
Absolument, que Brando estimait aussi compétent pour parler de l'art dramatique que Sean Penn, Nick Nolte, et beaucoup plus compétent que DiCaprio. Mais ce qui m'avait frappé sur ces masterclass, donc l'idée, enfin le projet de Brando, qui semble fou, il me semble tellement fou que même en parlant encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, mais pourtant c'était ça. Le projet de Brando, c'était donc ces masterclass, donc qui étaient sur Brando dissertant sur l'art dramatique, donc habillé en grand-mère.
Balançant des banalités terrifiantes.
Affligeantes, pour tester également son public, pour voir jusqu'où est prêt à aller son public. Et le projet de Brando était de commercialiser ces masterclass sur Internet, sur un site qui se serait appelé marlonbrando.com. Et ce qui me fascinait, c'était l'idée en fait que le plus grand acteur d'histoire du cinéma est quelqu'un qui était, à la fin de sa vie, en recherche de liquidité et prêt à tout pour ça.
Guillemette.
Oui, mais au-delà, effectivement, du côté pécunier qui avait l'air un vrai problème pour lui,
il y a vraiment quelque chose du bouffon. Enfin, y compris dans les problèmes capillaires majeurs, avec une manière d'avoir une image de soi qui correspond plus très bien, ou même une image presque moqueuse de soi-même, une négligence presque volontaire vis-à-vis de son apparence. Et là, enfin, se retrouver en mémé, en faisant exprès venir des clochards pour dire des banalités sur l'art dramatique, il y a quelque chose, enfin, qui renvoie, enfin, lui-même se présente comme un bouffon, joue de ça. Et dans certains de ses rôles aussi, il y a une bouffonnerie. Enfin, il y a quelque chose de la folie bouffonne, en fait, chez cet homme, quoi.
Ah, absolument. D'ailleurs, Brando était déjà apparu, habillé en grand-mère dans Missouri Breaks d'Arthur Penn, qui est un de ses derniers grands films. Je pense que le dernier grand film de Brando, on sera tous d'accord, c'est Apocalypse Now. Mais son avant-dernier bon film, c'est Missouri Breaks. Il apparaît habillé en grand-mère. Et quand il apparaît là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais surtout...
C'est lui qui l'exige, en plus.
Mais de toute façon, à ce moment-là, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Donc, il fait son film à l'intérieur, à l'intérieur du film des autres, même un petit peu chez Coppola. Mais ce que tout le monde a oublié, ce que l'histoire rejette, et on comprend bien l'histoire, d'ailleurs, elle a vraiment ses raisons, c'est que la dernière apparition de Brando, le dernier emploi de Brando dans sa carrière, quelques mois avant sa mort, c'est pour enregistrer une voix de grand-mère dans un dessin animé de télévision. Il enregistre chez lui, habillé en grand-mère. Il tient à s'habiller en grand-mère pour enregistrer cette voix.
Et c'est lui d'ailleurs qui a demandé à jouer la grand-mère. On lui a proposé de faire une voix pour ce dessin animé.
Oui, c'est lui qui va changer dans le casting pour jouer la grand-mère.
Pour jouer Madame Sucre. Qui est le méchant du film et le film ne verra jamais le jour d'ailleurs.
Il n'a jamais été diffusé.
Ouais. C'est vrai qu'on est très très loin de Sur les quais. Quand
même. Très très loin du Parrain. D'ailleurs, on va écouter un extrait quand même d'un des rôles majeurs du Parrain qui d'ailleurs l'a marqué puisque il s'est dit qu'il avait tout dit dans le Parrain, qu'il n'y avait plus rien à dire après.
Voilà, c'est. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous.
Soyez mon ami. Parrain.
Bien.
Samuel Blumenfeld, qu'est-ce que représentait ce film véritablement pour Brando sur un plan de cinéma, mais aussi sur un plan personnel?
Vous voulez parler du Parrain ici?
Oui, du Parrain, oui.
Je pense que le Parrain sauve sa vie, en fait. Il sauve sa carrière d'une certaine manière. Parce que faut pas oublier qu'à ce moment-là, donc au début des années 70, Brando était considéré comme une malédiction au box-office et Coppola avait pu l'engager, mais après moult réticences.
Il a dû l'imposer.
Il avait vraiment dû l'imposer et se battre. Si Coppola ne s'était pas battu pour l'imposer, en fait, on se souviendrait que plus uniquement du Brando des années 50. En fait, il serait véritablement en charpie. Également, je pense que c'est l'un de ces deux ou trois rôles où se manifeste de la manière la plus patente son génie. C'est extraordinaire, c'est bouleversant. C'est presque ce qui m'autorisait à écrire, à parler de ces derniers jours, parce que ces premiers jours avaient été quand même si glorieux. Et quand même, il ne faut pas oublier que son rôle donc de Don Corleone dans Le Parrain, c'est un rôle qu'il écrit, c'est un rôle qu'il crée, quoi. Enfin, je veux dire, il en est l'auteur.
Et c'est un rôle de père.
Sa voix, ses bajoux, en fait, qui étaient avec du coton, avec du coton ou du papier toilette mis à l'intérieur de sa bouche. Le chat qu'il tient, il a bâti ce rôle en deux coups de baguette. Dès que vous voyez le premier plan du Parrain, vous vous dites c'est lui. Ça peut pas être, c'est lui avec cette voix. Ça peut pas être quelqu'un d'autre et ça peut pas être autrement avec une autre gestuelle. C'était un génie, mais malheureusement pour lui, ce génie de l'art dramatique haïssait au plus haut point sa discipline de prédilection. C'est le drame de sa vie.
Pour quelle raison fallait-il faire un focus sur les derniers jours de Marlon Brando, c'est-à-dire donc présenter quelqu'un qui a été une star énorme à tous les sens du terme, finir entre sur un lit avec ses Kleenex remplis de merde autour de lui? Pourquoi fallait-il construire un roman sur cette image-là, Samuel Blumenfeld?
Parce que le drame des stars de cinéma, et a fortiori Brando de manière encore plus intense, c'est, comme l'écrit si bien Arthur Cerf, c'est 10 ans de carrière. Alors on va dire c'est 15 ans, on va ergoter, on va dire c'est 15 ans de carrière, mais si vous voulez, c'est pas grand-chose dans une vie. Et il est important de se souvenir, en fait, que le problème des grandes stars de cinéma, c'est pas le même problème que vous ou moi. C'est pas la même conduite d'existence. Notre existence, nous savons que nous allons la prolonger jusqu'à la retraite, même au-delà de la retraite, au-delà de 65 ans, 70 ans. Quand vous êtes une star, vous savez que ça va très vite s'arrêter, au bout de 10 ans. Et donc, devant vous, votre perspective, c'est 25, 30 ans, 40 ans à ne pas mourir. En quoi consiste l'existence de quelqu'un qui attend juste de ne pas mourir? C'est ça que je voulais comprendre.
Et qui, si je peux me permettre,
Guillemette,
je pense un peu à Alain Delon, dans le même genre comme ça de bête de cinéma, qui pendant effectivement 10, 20 ans, enfin la période viscontienne et un peu plus tard, et ce moment-là, le même moment que Brando, et après c'est, alors, ne pas mourir, ou savoir, et c'est horrible, savoir qu'on va forcément faire moins bien, qu'on fera moins bien, qu'on ne pourra pas faire aussi bien, et sûrement pas mieux que ces 10 ans-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Delon ne cesse de convoquer le passé, ne cesse de convoquer Visconti, Melville et tout, parce qu'en fait, il sait très bien qu'il n'a jamais fait mieux que ça, et il n'y a que ça qui compte. Donc c'est ne pas mourir et aussi ressasser un passé disparu.
Dernière chose avant de poursuivre les débats avec, avec notamment Arthur et vous, Samuel. Cette amitié avec Michael Jackson, ça je l'ai appris, c'est une fiction
ou c'est... C'était en aucun cas une fiction, elle est absolument authentique. Je pense même que la dernière fois que Brando est finalement... est sorti de son repère de Mulholland Drive, puisqu'en fait, faut pas oublier que à la fin de sa vie, je veux dire, dans ses derniers jours, il était prisonnier de son corps. Il était prisonnier de 140 kilos, donc il ne pouvait pas bouger. Donc la dernière fois qu'il est sorti, c'est pour aller chez Michael Jackson. Il se retrouvait sur un terrain évident, qui est celui de cette grande névrose américaine qui touche tous les puissants, les milliardaires, ces figures qui à un moment deviennent hors d'atteinte, le syndrome Howard Hughes. Eh bien, quand vous devenez un mythe vivant, quand vous arrivez à un tel niveau de puissance aux États-Unis, vous prenez en fait la succession des grands rois européens et vous terminez seul dans votre demeure, désormais transformée en forteresse château.
Dans quelques instants, on va fêter un anniversaire, les 40 ans d'Apocalypse Now. Mais tout de suite, je vous propose un autre film parce qu'ils ont choisi un nom très cinématographique pour un garage rock fantomatique. Film Noir se projette sur France Inter.
Oh,
La Mariée s'est signé Film Noir, un extrait de leur premier EP à paraître en octobre. La programmation, bien sûr, cinéphile de Jean-Baptiste Libert.
Rendez-vous.
J'ai vu des horreurs. Des horreurs que vous avez vues. Mais vous n'avez pas le droit de me traiter de meurtrier. Vous avez le droit de me tuer. De cela, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Il est impossible de trouver les mots pour décrire ce qui est nécessaire à ceux qui ignorent ce que l'horreur représente.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Toujours bizarre les raccourcis. Hein, l'horreur représente Laurent Goumard. Parfait. Il va falloir consulter, hein, Marion Lélé. À l'occasion de la sortie du livre Les derniers jours de Marlon Brando et la sortie d'une nouvelle version avec un nouveau montage du film Apocalypse Now qui fête ses 40 ans, retour sur Brando et plus largement sur le Hollywood des années 70. On en parle avec trois journalistes cinéphiles, Samuel Blumenfeld, Guillemette Odessino et avec vous, Arthur Cerf. Dans votre livre Marlon Brando, les stars durent 10 ans, vous écrivez que le choix de Marlon Brando pour ce film, Apocalypse Now, n'est pas innocent dans cette recherche de grands mouvements hallucinés d'un désastre organisé et d'une apocalypse en clair-obscur. Ça voudrait dire que le film serait, selon les termes toujours d'Isabelle Huppert, un documentaire sur Marlon Brando ?
C'est une bonne question. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que Coppola a déjà travaillé avec Brando. Il sait très bien ce qu'il va chercher quand il appelle Brando. Il sait que, en fait, ça fait partie de cette espèce de recherche de chaos. Il cherche quelque chose de très bizarre. Enfin, on sait que le tournage est une catastrophe. Le plateau sera ravagé par un typhon, etc.
Il y aura des morts.
Il y aura des morts, tout le monde prendra de la drogue.
Martin Sheen a une crise cardiaque.
Voilà, on sait que c'est très difficile de caster l'acteur. Et quelque part, prendre Brando, il sait très bien à quoi il s'attaque quand il fait ça. Il va chercher aussi cette espèce de figure mythologique qui correspond parfaitement au personnage de Kurtz. Et puis, c'est aussi ce Brando qui... Qui incarne à ce moment-là un reclus dans son royaume. C'est la fin des années 70 et il est cette espèce de souverain enfermé dans son palais de Mulholland Drive, et donc ça correspond aussi quelque part au rôle de Kurtz. Donc c'est en fait ce qu'écrit aussi Samuel Blumenfeld dans son livre, c'est qu'à partir des années 60, il se joue sans arrêt dans la filmographie de Brando une espèce de confrontation entre les films et le film de la vie de Brando qui se joue au fil de ses rôles. C'est-à-dire qu'on est autant... Il y a quasiment des épisodes de la vie de Brando et des phases de la vie de Brando qui sont beaucoup plus intéressantes que certains des films dans lesquels Brando a joué dans les années 60.
Guillaume,
ce qui est fou, c'est que sur l'affiche d'Apocalypse Now, Brando, on le rappelle, a quand même une scène qui dure 10 minutes, hein, à peu près. Hein. Et son nom est plus gros et plus haut que celui de Martin Sheen, qui est le héros du film. Et c'est fou, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose... Enfin, Coppola sait que ce nom, après, en plus, évidemment, le parrain et tout, que ce nom, ça va faire quelque chose d'apocalyptique, en fait. Justement, oui.
Et puis, il est absent 90% du film. Voilà, il a une apparition.
Et il est tout le temps... Enfin, c'est sa présence. Et, c'est...
Il n'est question que de lui. Il n'est question que de lui.
C'est un monstre absent.
Et puis, on se retrouve comme Arthur Cerf l'a dit très justement, Brando incarne une figure totémique. C'est la figure totémique idéale au moment où Coppola réalise son film, est presque une figure totémique, presque absolue. Il y a presque pas mieux. Et cela nous rappelle une chose, c'est qu'en fait, l'intensité d'un rôle ne tient pas à la longueur qu'il occupe dans le film. Il suffit de quelques minutes pour s'imposer pour l'éternité. C'est ce que fait Brando dans Apocalypse Now, c'est ce que faisait Orson Welles dans Le Troisième Homme. C'est-à-dire que si vous voulez, l'intensité de Brando est telle, je dirais pas sous ses derniers feux, parce que c'est la dernière fois véritablement qu'il apparaît dans un grand film. Et il le sait presque, et on a presque l'impression, en fait, il joue dessus.
Il avait pas du tout appris ses rôles.
Mais c'est justement, c'est
comme d'habitude.
Voilà, exactement. C'est aussi un film où je joue l'espèce de paradoxe de la vie et de la carrière de Brando, c'est que il n'arrête pas. Enfin, il est cette espèce de bouffon qui n'arrête pas de mépriser son métier, enlisé dans une espèce de mépris de lui-même et de l'industrie pour laquelle il travaille et qu'il a couronné.
Oui, parce qu'il
et
fait puis, des films simplement pour payer les factures.
Voilà, ça, il a toujours assumé cette espèce de vénalité qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et en même temps, sur le tournage, Une fois qu'il aura lu le bouquin, il va accepter de Conrad. Voilà, il va accepter de se raser le crâne et il va apporter au film une espèce de retour à un calme, à une espèce de méditation nécessaire au récit que Coppola, lui, ne savait pas vraiment comment mener. À terme, en fait, en arrivant là-bas.
À partir de quand il n'apprend plus du tout ses rôles et puis les textes sont placardés sur les décors. Il y a même des décors qui sont construits pour qu'on puisse placarder les répliques, ou alors il les met des post-it sur la tête des acteurs.
Il n'y avait pas encore d'oreillettes.
Non, mais
il y a certains acteurs qui tournent à l'oreillette.
Bah
hein.
Oui, Gérard Depardieu, voilà, avec les post-it.
Notre monstre ouais. À nous, notre Brando
mais,
à nous.
Mais chez Brando, ça commence assez tôt, hein, dès les années 60, alors qu'il pouvait tout à fait,
bien sûr,
les apprendre.
Il mémorise Shakespeare. Il peut réciter Shakespeare tous les jours.
Exactement. Alors, donc, il y a ce syndrome qui s'impose très rapidement dans sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit Brando dans un film, en fait, régulièrement, c'est un test pour n'importe quel spectateur. On le voit toujours bouger de manière étrange, se contorsionner légèrement, et on se dit, ah, c'est vraiment, c'est une manière de bouger vraiment exceptionnelle, elle est unique, il y a que lui pour faire ça.
C'est pour choper le post-it.
Quand il bouge, en fait, et quand il y a une légère contorsion, c'est tout simplement pour voir le post-it qui est sur le front d'un acteur ou d'un technicien, ou une affiche qui se trouve sur un mur. C'est rien d'autre. Mais, bon, disons que Brando, quand même, c'est moins qu'on puisse dire, s'affranchit avec bonheur de cette contrainte.
La dernière version, donc, qui vient de sortir, là, avec le nouveau montage, vous l'avez vu, c'est Melville Blumenfeld?
Oui, absolument.
Alors, qu'est-ce qui change?
Il a raccourci. On va dire.
Il l'avait déjà augmenté.
Il avait augmenté.
En 2001.
Redux. Là, maintenant, Coppola a raccourci. Moi, je vous dirais, quelle que soit la version, de toute façon, ça fonctionne.
Mais c'est un film qui ne finit jamais, en fait. Il va continuer à le monter en permanence, Guillermo del Toro.
Mais il fait ça avec, Apocalypse Now particulièrement, il fait ça avec tous les films. Coppola est un retoucheur de ses propres films. C'est comme s'il considérait que la toile n'était jamais terminée, qu'il remettait une touche de bleu, un petit bout de rouge. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'inachevé, d'une espèce de quête de perfection.
Il l'a fait avec le parrain. Il vient de le faire avec Cotton Club. Et si ça se trouve, il n'a pas fini de le faire avec Apocalypse Now.
Et qu'est-ce que ça apporte à ceux qui aiment les films de Coppola, justement,
Arthur Serf?
C'est une bonne question. Moi, j'ai pas vu cette version-là. J'en ai vu une avec donc la fameuse scène dans la plantation française, et puis aussi un passage où Brando lit le Times et écarte un enfant du bras. Enfin, des trucs assez surprenants, quoi. Mais c'est je sais pas. C'est à se demander si Coppola sait vraiment quel film il voulait tourner et s'il sait encore quel film. Quel film il veut faire d'Apocalypse Now, quoi. Après,
Après, pour un cinéphile un peu obsédé, de certaines œuvres aussi, parce que ça marche pas forcément, ça marche avec les films de nos vies, hein. Ce genre de cinéastes qui reviennent constamment sur l'ouvrage, ça marche sur un ou deux films où on est prêt à se demander justement avec le cinéaste, enfin, c'est un dialogue. Quand on adore un film, ça instaure un dialogue avec le cinéaste, dialogue silencieux de mais pourquoi? Parce que moi, ce moment-là, je l'aimais bien. Ah non, mais attends, mais alors, parce que toi, c'est ce moment-là qui t'émeut le plus. Enfin, il y a quelque chose de ça. Ça, quand on aime particulièrement une œuvre, c'est vraiment intéressant. Mais il faut être obsédé. Il faut déjà avoir vu avoir la première version 3 fois, le director cuts 2 fois et le redirector cuts 1 dernière fois, quoi.
Alors, dans le livre Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando, vous revenez bien sûr sur Apocalypse Now, mais pas tellement. Il y a un autre film qui vous intéresse plus particulièrement. C'est Le dernier tango à Paris. Extrait.
My father was a drunk, tough, whore fucker, bar fighter, super masculine, and he was tough. My mother was very, very poetic, and also a drunk. And all my memories, when I was a kid, was of her being arrested nude. We lived in a small town, farming community. We lived on a farm.
Bien sûr, on a choisi la version en VO pour avoir la voix si particulière de Marlon Brando, parce que derrière cette voix, il y a la voix de son père, une voix légèrement nasillarde avec quelquefois des pointes d'aigus. Non, on n'a pas choisi la scène du beurre, Guillaume Todicino. On a choisi autre chose.
Mais j'en parlais pas. Non, mais
c'était
alors, la manière de
c'était dans le off. Il n'y a plus de off,
faire
vous savez
ce
ça.
Thème sur la table. Ouais. Non, parce que on parlait de cette scène, parce que moi, je pensais que Marlon Brando avait vraiment beaucoup lui-même mis en scène cette scène, qu'il avait même un peu imposé à Bertolucci, mais on me dit que non.
Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur la scène que l'on vient d'entendre. Je traduis ce que racontait Marlon Brando, qui s'adresse à Maria Schneider, qui lui demande des souvenirs d'enfance, et il lui dit « Oh, mon père était un ivrogne, un baiseur de pute qui aimait se battre dans les bars, super masculin et indur. Ma mère était d'un tempérament très très poétique, et une ivrogne elle aussi. Et tous mes souvenirs de jeunesse concernant ma mère se résument au jour où elle a été arrêtée toute nue. Nous vivions dans une petite ville, une communauté de fermiers. » Vous revenez longuement sur cette scène, Samuel Blumenfeld, qu'est-ce que ça vous permet de raconter ?
C'est un moment très particulier. C'est un moment très particulier.
Du film.
Absolument. Il faut pas oublier que Le Dernier Tango à Paris est en partie un documentaire sur Brando. C'est un documentaire sur Brando qui a été voulu comme tel et instigé par le réalisateur Bertolucci. Bernardo Bertolucci qui avait pensé à d'autres comédiens auparavant et qui, le jour où il a l'accord de Brando, reconfigure complètement son film et se dit « je vais en faire un document sur Brando ». Document ô combien précieux. Dans ce fameux monologue, long monologue, Brando devant Schneider, où Brando raconte son enfance.
Et son enfance à lui, pas l'enfance de son personnage.
Non, son enfance dans le Nebraska, racontée de manière à la fois bouleversante et crue. Raconté en fait de manière brandoesque, tout à fait à son image.
Et improvisé.
C'est le seul moment qu'on parlait tout à l'heure du peu d'interviews de Brando qui existent. C'est le seul moment où Brando se confesse explicitement face caméra. Il l'a d'ailleurs jamais fait devant un magnétophone, mais là il le fait face caméra. C'est absolument unique et c'est bouleversant dans un film qui est ô combien singulier.
Il dira d'ailleurs que Bertolucci lui a trop pris, qu'on ne devrait pas demander autant à un acteur sur un film. Il se sentira presque trahi, il refusera de parler à Bertolucci pendant très longtemps.
Tout à fait. Et en même temps, Bertolucci a eu raison de le trahir. Parce que sinon on n'aurait pas eu ce film. Il faut que les metteurs en scène, parfois, se comportent en voleurs et en truands. Pour que nous, spectateurs, puissions avoir une récompense.
On quitte tout de suite Marlon Brando. On va retrouver Tarantino dans quelques instants. On connaît sa passion pour les BO flamboyantes. Once Upon a Time in Hollywood ne fait pas exception avec ce titre de Roy Head.
I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right.
Treat Her Right, le tube de l'américain Roy Head en 1965, en version française manifestement dans mes paroles.
Le nouveau rendez-vous.
Moi c'est Rick Dalton. c'est ma doublure cascade, Cliff Booth.
Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses.
Qui a commandé les saucisses de Francfort bien grillées?
Cliff m'aide à assumer certaines charges.
T'es super ami, on dirait.
J'essaye.
Qui est-ce qui s'installe à côté de chez moi?
C'est moi, Sharon Tate.
C'est l'actrice la plus en vue à Hollywood, voire dans le monde entier.
Madame.
Oh, c'est là que ça se gâte.
Laurent Goumard.
Toutes ces tueries, c'est vraiment mon truc, ça.
Marlon Brando, un héros de roman, Apocalypse Now qui fête ses 40 ans, le Festival du cinéma américain de Deauville qui ouvre ses portes vendredi, ça c'est pour faire la rime, vendredi bien sûr, et puis Tarantino qui se refait Hollywood des années 70. Vous êtes fou, hein, Benoît. C'est pathétique, je sais. On en parle ce soir avec trois cinéphiles, Samuel Blumenfeld du Monde, Arthur Serf de Sofilm et Guillemette Audessino de Télérama et aussi de France Inter. On vient d'entendre à l'instant un extrait de la bande-annonce du film de Tarantino qui refait cette histoire. Vous l'avez vu, Samuel Blumenfeld,
bien entendu.
En écho avec votre propre roman, vous y voyez des parentés avec ce que ça raconte.
Ce que ça... Il y a l'espace commun, je pense, je dirais, c'est, mais là de manière encore plus dramatique, de manière encore plus pathétique, c'est que le film de Tarantino est entre autres l'histoire d'un comédien qui comprend que sa carrière est définitivement derrière lui. À un âge où pourtant on pourrait imaginer qu'il a une bonne partie de sa vie devant lui. C'est ça que raconte le film de Tarantino. Et d'ailleurs, c'est assez bouleversant. Parce que c'est un film très réussi qui en fait rejoint en fait les peut-être la préoccupation majeure de Tarantino en fait depuis ce premier film. Le personnage tarantinesque, dirais-je, c'est un quadragénaire né à Los Angeles, qui a grandi là-bas, qui travaille dans l'industrie du film et se rend compte en fait que dans cette industrie, il n'a plus rien à faire et donc désormais il erre.
Comment vous avez, vous, regardé ce film, Arthur Serf, qui signait Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, qui est presque un écho à ce qui est raconté dans le film?
C'est presque, Brando, il est presque en creux, il habite presque en creux de ce film, puisque Rick Dalton, ce personnage joué par DiCaprio, c'est un acteur qui n'a pas pris la vague amorcée par Brando avec la méthode, en fait, et qui reste bloqué dans un système de jeu des années 50, qui n'a pas pris ce tournant d'une masculinité un petit peu différente à l'écran, et qui est bloqué, et qui n'a plus vraiment d'alternative. Brando, il est d'autant plus présent dans ce film que c'est tous ses héritiers qui sont à l'écran et la scène d'introduction avec Al Pacino qui fait comprendre à DiCaprio que voilà, que le temps presse et que c'est bientôt terminé. Bah voilà, c'est aussi la vie et la trajectoire de Brando. C'est donc
DiCaprio et Al Pacino lui-même qui a eu une carrière vraiment dans les années 70 flamboyante et puis qui après a continué mais finalement en dessous de ce qu'on aurait pu attendre, Guillemette Audessino.
Oui, c'est pareil, mais bizarrement, comme il y a toujours le théâtre pour lui, et puis il est passé aux séries, il a fait des téléfilms qui ont été assez primés, etc. Donc il y a pas ce côté pathétique chez Pacino, même chez De Niro non plus, il y a pas ce côté pathétique de mais qu'est-ce qui se passe, tout s'écroule et tout. Et d'ailleurs sur la méthode, sur l'acteur studio, l'une des scènes, c'est un Tarantino qui n'est pas très bavard comparé à plein d'autres. La seule séquence extrêmement bavarde, c'est une gamine, une actrice de quoi 8-9 ans, qui fait la leçon à Leonardo DiCaprio. En gros, en lui apprenant ce que c'est éventuellement que la méthode, quoi. Et en lui apprenant à comment elle se met dans la peau de ses personnages, elle apprend ses textes, alors qu'en fait, l'autre est assis sur le banc d'à côté en train de lire une BD, quoi. Donc, il y a vraiment là une bascule dans cette scène où on montre que ce type est effectivement, il est fini, quoi.
Alors, il y a aussi un écho avec votre livre, Samuel Blumenfeld, c'est l'épisode de Sharon Tate qui avait été assassinée par les membres de la secte de Charles Manson. Vous expliquez plus ou moins le fait que si Brando s'est bunkerisé comme ça à Hollywood, c'est en raison de en écho à ce carnage.
Oui, l'onde de choc envoyée par le meurtre de Sharon Tate, en fait, a transformé ce qui était auparavant un îlot peuplé de stars dans des maisons qui étaient toutes ouvertes, on fermait pas, même pas à clé sa porte. Et du jour au lendemain, en fait, tout le monde s'est cadenassé, bunkérisé, créant une paranoïa, en fait, qui s'est accentuée, quoi, au fil des ans. Mais le meurtre de Sharon Tate, en fait, change du jour au lendemain le paradigme des stars hollywoodiennes.
Mais plus encore, le bunker de Brando est très particulier. Il y a plusieurs codes, ce que vous racontez. Vous avez lu ça où, en fait?
Ah, c'est assez bien décrit dans la biographie américaine que va consacrer Peter Manso.
Il y a deux codes, c'est ça, hein?
Il y avait deux codes pour entrer, mais si c'était que ça, en fait. Si c'était que ça. Au-delà de ça, si vous voulez, Brando avait transformé une partie de sa maison en hangar, hein, où il stockait des ordinateurs et différents objets. Ça ressemblait très lointainement à l'idée qu'on se fait de la maison du plus grand acteur de l'histoire du cinéma. C'était en partie un monoprix.
C'est vrai, ça ressemblait. Moi, je me suis dit que c'était de la farfouille.
On va dire, ou plutôt, je dirais, en partie un Darty, quoi, puisque Brando était très porté sur l'électronique. Mais c'était devenu un petit peu ça. C'était moitié Darty, moitié Fnac, parce que quand même, Brando était un grand lecteur. Livre très différent, hein, grand lecteur de livres de Shakespeare, ouais. Mais également de livres sur comment élever son Rottweiler.
Qu'il avait.
Et par ailleurs, lui, c'est aussi enregistré en train de raconter comment il barricade sa propre maison un peu après l'enlèvement de son fils Christian par son ex-femme Anna Kashfi. Donc il y a des enregistrements de Brando puisqu'on sait qu'il passait son temps à s'enregistrer,
notamment avec l'histoire du téléphone.
Oui.
Le téléphone lui permettait de s'enregistrer, oui.
Oui, tout à fait. Et d'enregistrer les autres.
Et donc il y a des enregistrements où il raconte comment il fait de cette maison une forteresse pour que ça ne se reproduise plus.
Mais Tarantino, dans son film, montre bien ce quartier et la façon dont ces stars s'ouvrent ou s'enferment. Qu'est-ce que ça dit à ce moment-là, 69, parce que donc c'est tout le moment aussi où la bascule va avoir pour Brando. Qu'est-ce que ça dit du Hollywood aussi de ce moment? Là, Guillemette Odissino, ce bouleversement-là.
Bah, 69, c'est pas l'année érotique du tout, non. Pour le coup. C'est la fin de l'idéal hippie, c'est la fin de l'amour pour tout le monde, des marguerites dans les cheveux. C'est-à-dire que ça devient des cadenas partout et il y a vraiment quelque chose d'un idéal qui s'écroule. Et comme c'est aussi une nouvelle génération d'acteurs et de cinéastes qui déboulent avec pas du tout le même discours, c'est-à-dire Arthur Penn juste avant a fait Bonnie and Clyde. Bon, il y a Easy Rider qui va nous dire que quand même l'Amérique c'est pas cool comme on le pensait, et tout d'un coup il y a une nouvelle génération de cinéastes qui vont raconter que l'Amérique va mal, que ça plaisante plus. Donc c'est terminé, enfin 69 est vraiment c'est un verrou qui s'ouvre, c'est-à-dire les cinéastes se mettent à raconter le pas beau. Et un verrou qui se ferme sur les villas des stars, quoi.
Mais ce qui est important, c'est de bien se rappeler que le film de Tarantino était une uchronie. C'est-à-dire qu'il imagine ce qui se serait passé à Hollywood si ce drame ne s'était pas produit. Donc, en fait, Tarantino parle d'un Hollywood qu'il rêve, d'un Hollywood qui n'aurait pas été atteint par cette paranoïa. C'est pour ça que le film s'appelle « Il était une fois Hollywood ». Parce qu'il était une fois un Hollywood qui n'aurait pas été touché par cette tragédie. Donc un Hollywood, en fait, dont les maisons seraient restées ouvertes.
Enfin, c'est le prélude à une uchronie. Enfin, c'est un prélude, disons, inventé à une uchronie. C'est-à-dire qu'on s'arrête au moment où Hollywood pourrait continuer à être heureux. Oui.
C'est un film sur une nostalgie qui n'a jamais existé.
Pourquoi Tarantino, aujourd'hui, se focalise sur cette période-là du cinéma hollywoodien, d'après vous ?
Parce que c'est celle durant laquelle il a grandi. Or, on n'abandonne jamais son enfance.
Oui, manifestement. C'est ce que vous disiez au début de l'émission.
Ben, impossible.
Avant de passer à la session du NRV, retour sur la star de notre émission ce soir, Marlon Brando, qui a aussi chanté.
Your eyes are the eyes of a woman in love. And oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love? When I know very well what I say no moon in
Arthur Serf, vous l'avez reconnu. Marlon Brando qui chante Woman in Love avec Gene Simmons dans Guys and Dolls, Blanche Colombe et Vilain Messieurs. Ce côté-là, ça vous a intéressé quand vous écriviez Marlon Brando, les stars durent 10 ans?
C'est un aspect intéressant puisque c'est surprenant. On ne s'attend pas. A priori, Brando, c'est aussi une voix empêchée, nasillarde. Quelque chose de très particulier qui a priori se prête pas à la comédie musicale, d'autant plus qu'il tient tête à Frank Sinatra dans le film. Sur le tournage, ça se passe très mal avec Sinatra puisque Brando évidemment va draguer Ava Gardner, et donc a priori Sinatra va embaucher des mafieux pour l'emmener faire un petit tour en voiture et lui expliquer qu'en gros s'il recommence ça va très mal se passer. Donc c'est intéressant pour ces petits écarts, ces petites parenthèses romanesques dans la vie de Brando. Après, moi, c'est pas un film dont je suis particulièrement fan, mais c'est...
Vous préférez le film de Christian Marquand?
Presque, puisque c'est un film qui s'inscrit tellement dans la grande relation entre Christian Marquand et Brando que c'est une relation bouleversante, c'est une relation qui le pousse à faire des films complètement consternants.
Ce nom à son enfant. Samuel Blumenfeld
Sur Blanche Colombe, il vient d'un messieurs atroce, film de Mankiewicz, peut-être le plus mauvais film de Joseph Mankiewicz. Enfin, c'est surréaliste. C'est un moment où Brando aussi se cherche, teste des choses. Il comprend en tous les cas que c'est pas pour lui, que la comédie musicale c'est pas pour lui, tout simplement. Mais c'est, dirons-nous que le film n'est pas assez mauvais pour qu'on s'en souvienne autant que Candy. Oui. Voilà.
Mais de toute façon, la séduction classique, hollywoodienne classique, la séduction à la Cary Grant ou à la George Clooney ou à n'importe, ce n'était pas du tout Marlon Brando. Marlon Brando n'a jamais été dans ses films aucun le séducteur classique, le lover, chaque fois qu'il était amoureux dans un film, il hurlait. il hurle tout le temps. L'amour, de toute façon, également, n'est pas une bonne chose pour Brando dans les films.
Ah ben, ça sera le mot de la fin, c'est vraiment parfait. On va rester sur la musique tout de suite. On va partir en live avec Marion Guilbeault.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion, un homme est au piano derrière vous.
Oui, piano ce soir dans le nouveau rendez-vous avec David Cadouche. David Cadouche, un musicien français. Il a été repéré à 13 ans par Itzhak Perlman qui l'a emmené jouer à New York, au Metropolitan, puis après au Carnegie Hall. Et l'année d'après, c'était le conservatoire Tchaïkovski à Moscou. Une autre personne importante dans son parcours, c'est Daniel Barenboim, avec lequel il a partagé des démarches musicales, humaines, œuvrant au rapprochement qu'on connaît entre Israéliens et Palestiniens. David Cadouche, il a été révélation, jeune talent, victoire de la musique en 2011. Il a déjà enregistré plusieurs disques consacrés à Beethoven, Schumann, Moussorgski. Et c'est un musicien assez original parce que c'est un musicien qui fonctionne au coup de foudre sur un répertoire avec quand même un tropisme pour les œuvres peu jouées. L'année 2019, pour lui, elle est synonyme de révolution. C'est le titre de son nouvel album qui rassemble Dussek, Beethoven, Chopin, Liszt, Janacek, Debussy. C'est un disque qu'il a imaginé en lisant Les années d'Annie Ernaux, avec cette idée de sauver quelque chose du temps où nous ne l'en sera plus jamais. Comment les compositeurs continuent de rêver, d'écrire, alors que tout s'écroule ou se transforme autour d'eux, que le temps s'accélère? Quelle couleur prend alors la musique? Voilà, c'est toutes les questions qui traversent cet album. Et ce soir, il a choisi de nous interpréter une étude de Frédéric Chopin, étude révolutionnaire. David Cadouche, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Bien sûr, on est en 1831. Chopin apprend que la Pologne est envahie par les Russes. Et il est déchiré, il est exilé en France, il a mal pour son pays. Et il compose cette œuvre qui est très connue, mais qu'on peut écouter peut-être de manière différente en connaissant ce contexte, parce qu'on a cette main gauche qui dévale le clavier avec une tension, une manière de dire les choses très très intense, avec peut-être beaucoup de rage, de revanche, de désir de revanche, de vengeance. Et on a cette main droite qui, elle, est très très lyrique et parle de patriotisme, d'amour même peut-être, selon moi. Et cette fin un peu surprenante qui montre que derrière l'obscurité de ce qui est en train de se passer, peut-être il y a quelque chose de l'espoir, de l'ordre de l'espoir et de toujours de la vengeance, encore une fois, qui peut avoir lieu. Mais c'est encore une musique, je pense, très cathartique.
On va écouter le son de la révolution selon Frédéric Chopin par David Cadouche. C'est à vous.
Thank you.
Merci.
David Kadouche sur cette étude révolutionnaire.
Du coup, j'ai regardé la main gauche tout le temps.
Tout le temps. Ouais. Moi, j'étais la main droite. Voilà. C'est extrait de son nouvel album Révolution qui sort vendredi. Et David Kadouche va être en concert le 11 octobre à la Scala à Paris pour un programme Dans ces mois. Le 29 octobre, les gens autour de cette table vont deviner où. C'est un célèbre club lynchien de la capitale. On n'a pas le droit de dire son nom. Le 16 novembre au château de Compiègne et les 6 et 8 décembre, ce sera à l'Opéra de Tours. La prise de son ce soir était assuré par les révolutionnaires Guillaume Roux et Charles Lecker.
Pourquoi on n'a pas le droit de donner le nom
Il
du
paraît
silencio
qu'on a pas le... Bip.
C'est de la censure. Merci à nos invités. Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando, c'est chez Stock. Arthur Cerf, Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, c'est chez Capricci. Et enfin, Guillaume Todesino, je rappelle, Toscan, Papa et moi, aux éditions La Martinière. Apocalypse Now, Final Cut est toujours en salle. Et Coppola sera même l'invité du prochain festival Lumière de Lyon, fin octobre, pour présenter sa dernière version. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite pour plus de France Inter avec une semaine consacrée à Françoise Dolto. Demain, au programme du NRV, ce sera ça.
Quelles sont les deux grandes épidémies qui ont ravagé l'Europe à la fin du Moyen-Âge ?
Le chômage et la misère.
L'école, rentrée et lutte des classes, mais pourquoi ça coince encore? Je vous invite à poser dès à présent vos questions, interrogations ou analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. On vous attend. On vous entend. En live, Marion, ce sera...
Demain ?
Oui.
Demain, c'est un super duo. C'est notre petit chéri Cléa Vincent qui vient avec Camille Bazbaz.
Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit. Pourquoi, Benoît Lagan ?
Pour tout le monde. Parce qu'on passe à la radio comme tout le monde.
Il sait même pas son texte. C'est lamentable, non, on dirait Marlon Brando. Vous voulez que je me colle un post-it la prochaine fois ? Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation, préparation, c'est Virginie Rouzic. Alors allez, à tout de suite.
Rendez-vous.